Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver à cette antenne comme chaque vendredi à 13h. Alors aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler pour la deuxième fois, parce que oui, on l'a fait l'année dernière, on va parler de sophrologie. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Fioraletta, qui est directeur de l'école Sophrolore. Bonjour Patrick.
Bonjour Lionel.
Laurent Vatrin, qui est président de l'association des sophrologues caïcédiens de Lorraine. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Et enfin Florence Vial, une voix que vous connaissez bien sur cette antenne de RCN, car elle anime toutes les semaines, hein, c'est ça, c'est toutes les semaines.
Oui, toutes les semaines.
Des mots magiques sur RCN, et elle est aussi sophrologue. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors c'est un plaisir de vous avoir tous les trois à l'antenne, et j'ai aussi par téléphone, on va dire presque une habituée de nos micros à RCN, Anne-Marie. Comment vas-tu Anne-Marie?
Bonjour Lionel.
Alors Anne-Marie.
Alors j'espère que la connexion va être confortable pour tout le monde, pour vos auditeurs, parce que voilà, le réseau est pas très bon par ici.
D'accord, alors Anne-Marie, on va rappeler où vous êtes, parce que vous n'êtes pas à Nancy. Hein.
Non, c'est ça.
Voilà. Donc vous vous situez où Anne-Marie?
Alors je me situe dans un village en dessous de Tours, dans l'Indre-et-Loire, dans le département 37.
Alors c'est vrai, Anne-Marie, on se voit, mais on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais? Voilà, présente-toi pour les auditeurs qui t'auraient raté la dernière fois.
Alors je suis naturopathe de formation initiale, et puis dans ma boîte à outils, j'ai la réflexologie plantaire, et j'ai aussi maintenant l'auriculothérapie.
Très bien.
Voilà, alors, deux techniques complémentaires, oui.
Alors, on va parler aussi de ce qu'on appelle parfois vulgairement les médecines douces, de ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Enfin, il y a plein de noms. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va aussi principalement parler de la sophrologie à l'occasion des 30 ans de la sophrologie en Lorraine. Mais d'abord, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut définir c'est quoi la sophrologie ?
Ah ben, je veux bien prendre la parole. La sophrologie, c'est une relaxation dynamique qui sert soit à activer, soit à relaxer le corps, l'esprit, par des exercices simples de respiration, de gestes simples, d'activation du positif, qui permettent à la personne qui pratique d'être acteur de son bien-être, on va dire.
Alors, y a une question aussi de conscience qui est très importante dans la sophrologie.
Oui, bien sûr. Le professeur Caicedo, qui a créé la sophrologie, définit celle-ci comme suit: c'est l'étude de la conscience et des valeurs de l'existence. Wow, vaste programme.
On va en parler, on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Alors, donc oui, une méthode de relaxation. Alors, vous insistez sur le fait que la sophrologie ne remplace pas la médecine traditionnelle.
Oui, je crois qu'il faut clarifier un petit peu les choses. Hein. Ce qu'on doit vraiment regarder quand on parle de sophrologie, c'est tout ce qu'a fait comme travail le professeur Alfonso Caicedo, qui dans les années 50-60 était un jeune psychiatre clinicien et qui trouvait anormal qu'on ait des traitements avec électrochoc sur des gens qui a priori pouvaient s'en sortir autrement. Mais il a dépassé bien évidemment le cadre de sa clinique pour aller chercher ce qu'il appelait lui-même une pédagogie de l'existence. Et en fait, la sophrologie, c'est ça. Et il est allé chercher ce terme sophrologie dans l'étymologie grecque. Donc sos, c'est l'équilibre en grec, phrène, la conscience ou l'esprit, et logos, l'étude ou la science. Et la sophrologie, c'est à la fois une science et une discipline. C'est-à-dire une science en tant que recherche, c'est toujours une discipline qui est dans la recherche active, puisque la fille d'Alfonso Caicedo, Natalia Caicedo, qui a aujourd'hui cette société de formation qui s'appelle Sophrokei et dont la branche Lorraine s'appelle Sophrolore, dirigée par Patrick Fioraletta, cette science est aussi fondée sur de la recherche avec de manière pluridisciplinaire pour aller chercher ce qu'il y a derrière. Oui, il y a la conscience, et Caicedo avait effectivement dans son état d'esprit et dans sa vision, l'idée qu'il fallait aller chercher l'autonomie de la personne avec une méthode Et donc, c'est une discipline qui permet d'accompagner les gens vers leur autonomie. Et donc, on parle de conscience humaine, on parle de conscience personnelle.
Alors, finalement, la sophrologie, c'est multidisciplinaire. Parce que si on regarde un peu dans l'histoire de Caicedo, il s'est inspiré de plusieurs traditions orientales, du yoga, de méditation bouddhiste, de phénoménologie. Donc, finalement, est-ce que c'est une pratique assez, j'ai envie de dire, totale, complète, qui prend en considération l'esprit et le corps.
Bien sûr, bien sûr, et surtout cette interaction corps-esprit. En fait, la conscience pour Caicedo, c'est un espace de rencontre corps-esprit où l'interaction va dans les deux sens. Quand il est allé en Orient, il est allé voir les yogis, et on s'aperçoit bien qu'en pratiquant sur le corps, on apaise l'esprit. En Occident, nous savons bien que par la volonté, on peut tout faire. Et si je veux, je peux. Donc, on a plutôt quelque chose qui va de la pensée vers le corps. Lui dit, ben non, c'est les deux fonctionnent. Et aujourd'hui, la science démontre que notre intestin influence notre cerveau aussi. Et on se rend compte qu'il y a des interactions permanentes et que le but de ça, de la pratique en sophrologie, c'est de trouver l'équilibre justement dans cet espace-là.
Je pense que Anne-Marie ne contredira pas vos pratiques, parce que on en a déjà parlé, hein, ce lien entre corps et esprit qui est très important pour toi, Anne-Marie.
Absolument, c'est indéniable, le corps, l'esprit, on peut se faire autant de bien qu'autant de mal finalement, hein, par somatisation, mais on ignore aussi la technique inverse, de se faire du bien par de la pensée positive. Et donc j'approuve sans conteste, hein, tout ce qui vient d'être dit, voilà, et de prendre vraiment l'être humain dans son ensemble, c'est ça qui est important, ne pas le morceler, ne pas dire eh ben il y a le corps d'un côté et puis le corps là aussi on va le découper en différentes zones et puis on va s'intéresser à soigner telle ou telle zone. Non, c'est un tout, et le tout est géré aussi beaucoup par la tête.
Anne-Marie, oui. Tu nous parles de pensée positive, et là oui. Tout de suite me vient cette question, c'est est-ce qu'on peut se faire du mal physiquement par des pensées négatives? C'est-à-dire que en ayant des pensées parfois sombres, on les vit au moment où on les pense. Est-ce qu'on le corps ressent?
Absolument. Le corps ressent et est impacté. Alors, en médecine chinoise, on apprend bien sûr les cinq émotions, et chaque émotion impacte un organe ou un viscère, voilà, de notre propre corps. Par exemple, l'anxiété, c'est vrai que les personnes anxieuses vont avoir des problèmes d'estomac, de brûlures d'estomac qui peuvent aller au-delà aussi. Par exemple, la tristesse peut impacter le poumon. Et c'est très important en plus de reconnaître ces symptômes-là, parce que des personnes qui viennent dans mon cabinet, qui me disent « Oh mais là en ce moment ça va pas, j'ai des douleurs là, je me sens oppressée au niveau de la poitrine », je leur demande déjà systématiquement s'ils dorment bien la nuit. Et on me répond très souvent « Non, j'ai des réveils nocturnes, 3h et 5h du matin ». Et je vais au-delà dans l'émotionnel, parce que mon approche et ma technique ne peut pas faire sans l'émotionnel. Et en allant plus loin et en demandant si justement en ce moment il n'y a pas un petit peu de tristesse, est-ce qu'il y a eu un petit événement qui a fait que, eh bien, 9 fois sur 10, on me dit oui, en effet, voilà, j'ai ça et ça. Et en travaillant en réflexologie plantaire, on arrive à diluer un petit peu ces émotions fortes et impactantes et à les faire ressortir par des émonctoires. Alors, il faut peut-être parfois plusieurs séances, mais déjà, dès la première séance, on ressent ce soulèvement et ce bien-être.
Florence, toi qui es sophrologue, est-ce que tu converges vers ce que dit Anne-Marie, et aussi cette question de je pense à des choses négatives, donc je me sens mal?
Bah oui, en sophrologie, il y a le principe d'action positive, hein, qui est présent dans la méthode, et on sait très bien que c'est quelque chose à renforcer absolument dans la vie tous les jours. C'est-à-dire, dans un premier temps, prendre conscience aussi de ses somatisations. C'est pour ça que le corps était un premier élément à travailler. On va aller rechercher un petit peu comment le corps ressort l'émotionnel, ressort les événements de vie qui sont parfois autour des personnes. Et bien souvent, même pour une personne, on s'aperçoit que les somatisations sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une expression qui est habituelle dans son corps. Et en général, ce sont des choses sur lesquelles on ne s'apitoie pas. La majorité du temps, on les ressent, mais finalement, on passe outre, on fait comme si on ne les ressentait pas. Mais le corps, il nous donne des signaux d'alarme qui sont assez intéressants à analyser. On a tous des petits endroits où on somatise de façon préférentielle. Il y en a, c'est le dos, il y en a, ça va être l'estomac, il y en a d'autres, ça va être des maux de tête ou autre chose. On a tous nos petits signaux d'alerte, souvent, auxquels on tient compte, et puis des fois, non, on ne leur en tient pas compte, et puis on a d'autres qui vont arriver, voire même, il y a carrément parfois de la vraie maladie qui va s'installer, parce que bien souvent, on n'a pas écouté certains signaux, ou l'émotionnel a été très très fort, et parfois ça ressort sous la forme d'une vraie maladie, en fait. Et le principe d'action positive, c'est ça. C'est ramener les éléments positifs dans sa vie de tous les jours. C'est voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide.
Il y a, pour nos auditeurs, et je pense que ça arrive à pas mal de personnes, on a un événement, on a quelque chose d'important, et puis on a un échec, on rate cette chose. Alors il nous arrive de ressasser l'événement, de repenser, de dire pourquoi j'ai agi comme ça, et puis on sait très bien que ça n'a aucun impact sur le présent ou l'avenir, mais voilà, on ressasse nos déboires. Mmh. Est-ce que ça aussi, ça participe au fait de se sentir mal physiquement et d'être dans un état négatif sur la durée?
Bah, c'est comme Patrick le disait, il y a un lien qui est fort entre le corps et l'esprit, et l'inverse étant vrai, l'esprit sur le corps, de toute façon, cette association entre les deux, elle va être importante à travailler. Et la sophrologie, c'est ça, c'est reprendre une technique qui est bien formalisée, bien cadrée finalement, à la fois corporelle, mais à la fois aussi sur le plan du travail de l'esprit en conscience, eh bien, ça va permettre à certaines personnes soit de récupérer, soit de gérer l'émotionnel, soit de faire un travail de fond sur lui-même, sur sa personne, bien se connaître, c'est hyper important. Ça va donner des atouts très forts. Alors, aussi bien dans des échecs qui peuvent être juste un échec d'examen ou pas forcément quelque chose de très impactant, mais ça va permettre de reprendre conscience sur ce qui se passe en nous à ce moment-là, ce qui se joue, quelles sont les émotions, repartir dans le corps, ses ressentis et autres, et d'avoir cette réflexion bien consciente sur soi-même et de repartir toujours sur le positif. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe d'action positive qui est là. Je pense que Patrick sera d'accord.
Patrick ? Ah ben, je suis tout à fait d'accord. On peut même parler de somatisation du positif. Parce que bien souvent, quand on parle de somatisation, on parle de ce qui ne va pas. Mais il est possible de somatiser positivement. Le fait est, dans la description que fait Caicedo de la conscience, et que font aussi les phénoménologues allemands, c'est que la conscience est toujours ici et maintenant. C'est-à-dire qu'elle est toujours au présent. Par contre, si je pense à un projet qui me tient à cœur et qui m'enthousiasme, ça va me faire du bien maintenant. Si j'évoque un souvenir très heureux de mes dernières vacances, ça va me faire du bien maintenant. Et c'est ça l'action positive, c'est-à-dire être capable de chercher les ressources que nous avons tous, chacun en nous, là où elles sont, pour aller bien maintenant.
On va revenir un peu sur l'histoire, l'évolution de la sophrologie en France, et après on va se concentrer sur cette ville qu'est Nancy, et même sur la Lorraine. Donc c'est dans les années 60-70 globalement que la sociologie a commencé, la sophrologie a commencé à trouver un écho en France, particulièrement dans le domaine du sport, dans certains domaines médicaux, mais c'est seulement dans les années 80 qu'il y a eu une reconnaissance et qu'elle a gagné en popularité en France et dans d'autres pays en Europe. Est-ce que vous, cette évolution-là, vous l'avez constatée maintenant à l'échelle de Nancy, quel est l'impact, et même à l'échelle de la Lorraine, quel est l'impact de l'évolution de la sophrologie?
Alors le grand tournant, c'est les années 89-90, c'est quand le professeur Caicedo est rentré de Colombie. C'est-à-dire dans les années 80, il est retourné en Colombie, son pays d'origine, pour développer la sophrologie sociale en entreprise, avec les enfants de la rue à Ogota, et dans des protocoles pluridisciplinaires pour le bien-être de l'être humain. Et donc quand il est revenu dans les années 90, il a créé toutes les écoles dont nous faisons partie. Donc l'école Lorraine a été créée en 91 pour développer, suivant l'évolution de la méthode, parce qu'elle était toujours en évolution, elle a été en évolution jusqu'en 2005. Faut pas l'oublier, il a terminé. C'est une méthode assez jeune, assez récente, hein, puisqu'elle a été terminée en 2005. Il a voulu, comme ça, la diffuser dans toute l'Europe, enfin en France et dans toute l'Europe.
Concernant la Lorraine, donc vous avez dit c'est assez jeune ici, hein, à Nancy. Comment ça a été accueilli au départ?
Au début, on était un peu bizarrement. Si je reprends l'année 1998, nous sommes intervenus au centre Alexis Vautrin, pour le cancer, parce que les infirmières demandaient à avoir de l'information sur la sophrologie. Nous sommes intervenus avec Marc Bemer, l'ancien directeur, et on regardait, on savait pas trop ce que ça allait donner, il fallait en parler, c'était un peu sulfureux, on va dire. Et puis petit à petit, en faisant des expériences d'évaluation, dans les années 2000-2010, on a commencé à reconnaître que, tiens, peut-être nous pouvons avoir des critères d'évaluation suffisants pour dire que dans la gestion du stress, par exemple, ça fonctionne. Pour la fibromyalgie, ça fonctionne. Pour la respiration, ça pouvait fonctionner. D'ailleurs, c'est dans le rapport de l'INSERM qui est sorti en 2019 sur l'efficacité et la sécurité de la sophrologie en France. C'est le professeur Falissard qui s'est occupé de ça. Il y a eu des expériences qui ont montré que ça pouvait fonctionner.
Donc sur 30 ans, si je comprends bien, les premières années ont été un peu des années de bataille pour une forme de reconnaissance, et c'est seulement il y a une dizaine d'années que vous avez pu un peu vous imposer dans le paysage nancéen.
Oui, ça a pu être reconnu, enfin.
Alors Laurent, vous, quelle perception vous avez de l'évolution de la sophrologie au fil des ans en Lorraine?
Oula, vaste question. Alors moi déjà, je suis formé depuis très peu de temps et je parle sous le contrôle de Patrick Fiorletta, qui est mon formateur initial. Donc sophrologue, j'en fais effectivement la promotion utile et tout à fait honnête. Et je pense qu'elle, cette école, qui a donc une trentaine d'années aujourd'hui, enfin on fête les 30 ans demain, hein, pour ceux qui voudraient encore d'ailleurs passer, il y a peut-être encore quelques places pour les ateliers.
On a donné demain, à quelle adresse et à quelle heure?
Alors c'est à 57 bis rue de Nabécor, c'est à l'école de kinésithérapie de Nancy. Il y a les conférences à partir de 8h30 le matin jusqu'à midi et quelques. Et puis l'après-midi, surtout, il y a les ateliers pratiques. Parce que je crois que ce qui est intéressant là, c'est de voir tout l'enthousiasme que les sophrologues cassédiens de Lorraine ont mis pour venir présenter l'application de la méthode dans différents domaines, comme l'enfance, les seniors, le sommeil, la douleur. Et bon, ils seront tous là l'après-midi. Vous pouvez avoir trois ateliers au choix, qui se suivent successivement. Et ça coûte, vous pouvez acheter vos places sur place, c'est 30€ à partir de 14h.
Et ce que je voulais dire, donc par rapport à ce que vient de dire Patrick, c'est l'entrée dans la pratique, ça c'est super important. Et nous, ce qu'on a vu et ce que disent les sophrologues formés au fur et à mesure des sessions et de formation, c'est que on commence tout de suite par de la pratique, justement. Débrancher le mental, arrêter de ruminer. On arrive peut-être dans une formation de sophrologie un peu cabossée parfois parce qu'on a un besoin. Le besoin, il est là. Et donc, la sophrologie va répondre à ce besoin, ou pas. Mais en tout cas, elle ouvre une porte, la sophro. Et c'est ça qui est intéressant. On rentre par la pratique. Et tout de suite, on sait ce que ça veut dire. Et c'est ça l'origine, finalement, de l'évolution. Ce qu'a voulu Caicedo, c'est marteler ça. Et les successeurs de Caicedo aujourd'hui, les sophrologues qui sont en activité plus ou moins intense, ont compris ça. Et donc ils rentrent aussi avec leurs sophronisants, avec leurs clients, avec leurs patients, pour ceux qui sont thérapeutes médecins, moi c'est pas mon cas, mais ceux qui ont des clients en sophro, on leur dit toujours, on va commencer par une pratique. Voilà, et on verra bien ce que ça vous fait là tout de suite. Après quelques petites questions sur vous, mais on va commencer par une pratique. Et là, il se passe quelque chose, et déjà, il y a une autre interrogation qui se fait jour. Et c'est ça qui est intéressant. Et l'évolution de la sophro, elle est là aujourd'hui. Et elle est, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, Lionel, c'est les temps sont durs et qui ne rumine pas en ce moment sur notre incapacité à maîtriser le monde qui va pas si bien que ça, on est d'accord. Mais on a une capacité à se recentrer sur nous-mêmes, à prendre conscience de la conscience et à faire en sorte que, avec cette prise de conscience, on peut entrer en relation nouvelle avec l'autre, avec l'environnement. Et peut-être c'est comme ça qu'on va changer un petit peu le bien-être général. Voilà. Et donc, moi, je dis ça à mes sophronisants. Hein, je leur dis, ils viennent me voir. Bah, d'abord, j'écoute le besoin. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux pas répondre? Déjà, c'est très clair. Et la méthode de Caicedo, elle est géniale pour ça parce qu'elle est sécurisante. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle en sophro l'alliance. Et l'alliance, ça veut dire que nous travaillons en même temps que celui à qui on livre l'accompagnement de la méthode. Et ça, c'est super important, parce que la confiance, elle est là, ou pas, encore une fois, mais elle se joue tout de suite. Donc si ça marche pas, c'est pas grave, allez voir quelqu'un d'autre, je ne suis pas votre référent potentiel, mais il y aura d'autres possibilités ailleurs. En tout cas, on ouvre une porte, et on peut faire progresser effectivement la qualité de présence de l'être, de la personne, grâce à la méthode sophrologique. Et moi, je pense que c'est ça, l'évolution aujourd'hui, si on parle de l'évolution récente, hein, sur Nancy, en Lorraine, il y a quand même une histoire. C'est vrai qu'on peut remonter le temps. Hein. Il y a une histoire avec l'hypnose, avec Coué, avec Bernheim, Cuvelier, enfin des gens que Caicedo, pour certains, a pu rencontrer. Donc, aussi.
Coué, c'est l'auto-persuasion, hein, c'est
ouais,
ça l'auto-suggestion.
Voilà. Il faut savoir que Caicedo, au départ, s'est intéressé à l'hypnose. Sauf qu'il s'est dit, c'est un peu trop suggestif. Les codifications de l'hypnose, c'était on oriente beaucoup trop la personne, donc finalement elle ne va pas être autonome. Il y a des risques de manipulation, etc. Donc il s'en est un petit peu extrait. Donc on a gardé le côté un peu orientatif dans la méthode Caicedo, effectivement, pour aller insister sur ce que disait Florence tout à l'heure, l'action positive. L'action positive, c'est, par exemple, si j'entends quelqu'un qui vient me voir, qui me dit... Alors moi, j'ai que des mauvais souvenirs, c'est catastrophique. Je vais pas l'emmener sur le souvenir. Je vais pas proposer une technique qui va lui faire rappeler des mauvais souvenirs. On sera pas dans l'action positive. Par contre, dans le présent, là maintenant, il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans sa vie. Donc je vais l'emmener sur du positif au présent. Et ensuite, on va cheminer comme ça. Voilà.
Et tout à l'heure, Florence mentionnait le fait de voir le verre à moitié plein. Est-ce que ça aussi, ce genre de pratique, et là je me tourne vers Anne-Marie, est-ce que ça favorise le fait de pouvoir saisir des opportunités, mieux remarquer là où se situe sa chance, ou alors prendre les événements avec philosophie?
Par rapport, est-ce que tu peux reformuler la question?
Bien sûr. Oui, par rapport à ce que Florence nous disait sur le fait de voir le verre à moitié plein, est-ce que ça favorise le fait de pouvoir saisir des opportunités, en fait, d'être plus clairvoyant sur les aspects positifs de ce qui nous arrive?
Oui. Alors, c'est pas une question d'être clairvoyant subitement comme ça. On l'est ou on l'est pas finalement. Mais c'est de changer un petit peu d'angle de vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, oui, il y a une situation qui est négative, en tout cas qui est perçue comme telle. Et il faut aller chercher derrière, un petit peu comme le symptôme et la cause. Et quand on arrive à se poser ces bonnes questions. Pourquoi est-ce que je vis cet événement-là de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Finalement, quand on a conscience que la vie, finalement, elle nous veut du bien, on trouve les réponses. On trouve les réponses et c'est important aussi, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, ou Laurent, je ne sais plus, la résilience, voilà, c'est l'instant présent qui compte. Et de le revivre aussi. Et ça, c'est important au niveau vibratoire. Revivre ces moments que l'on a eus à des moments où ça va pas trop, et bien justement, au niveau de l'énergétique, ça va forcément mieux. Le fait de les revivre intensément, tout, hein, par l'odeur, par les sensations physiques que ça a pu procurer. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui permettent la résilience. Et qui nous font voir finalement, au bout d'un moment, c'est un exercice, hein, c'est pas si simple que ça, mais finalement, ça nous permet de se dire que, oui, quand même, la vie est belle, même s'il y a des choses autour de nous qui ne le sont pas. L'important, c'est soi. Il faut être aussi altruiste, bien sûr, mais si on veut que le monde aille bien, il faut que nous-mêmes, déjà, allions bien, voilà, à l'instant T. Et après, eh bien, c'est de distribuer aussi du bien autour de nous, mais voilà, essayer d'avoir ces bonnes vibrations-là.
Patrick ?
Ah ben, je dirais tout simplement que la sophrologie, en fait, c'est pas une thérapie en soi. C'est-à-dire, comme nous le disait Laurent tout à l'heure, c'est une pédagogie de l'existence, c'est-à-dire les choix que je peux faire pour ma santé. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec la sédentarité, avec le travail sur écran, eh bien, on est moins disponible à son corps, et il faut au moins utiliser son corps journellement pour qu'il fonctionne bien, par exemple, avoir de l'activité physique, avoir une alimentation équilibrée. Faire attention à son sommeil, pas être forcément sur la lumière bleue avec les écrans jusque très tard la nuit. Et donc, tous ces éléments de base, grâce à l'entraînement sophrologique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ce qui nous est dit par les sophronisants, c'est que ben, ils prennent conscience que c'est mieux si je me couche plus tôt, c'est mieux si je bouge un peu plus tous les jours. Et on s'oriente vers la santé. Alors, c'est plutôt une activité de prévention que quelque chose de curatif. Bien sûr, la sophrologie peut être utilisée par des thérapeutes, par des médecins, des kinés, des infirmiers, dans le cadre de leur profession, mais elle peut aussi être utilisée par des enseignants, pour que les élèves soient plus performants à l'école, par exemple, s'ils le désirent, évidemment, mais ça peut être aussi dans la relation d'aide, pour les éducateurs. Donc, il y a de multiples utilisations de la sophrologie parce que c'est une pédagogie de l'existence et que ça permet de savoir, de connaître son axe, de savoir où on va, de donner du sens, peut-être, et de la valeur à son existence.
Donner de la valeur à son existence, on va développer ces questions-là. D'abord, on va s'octroyer une petite pause musicale. Alors, est-ce qu'on a la chance d'avoir Sophrolore en Lorraine ? Est-ce que c'est une chance inouïe ? Je ne sais pas, on va le savoir peut-être dans quelques minutes. Mais avant, on va parler de la chance d'Abby Bernadotte dans son morceau qu'on écoute tout de suite.
Je suis né de la dernière nuit, né de la dernière pluie et du dernier soleil. Je suis né de l'amour qui lit et tout autour qui lui. Regardez-le, mon rêve. Il est beau comme un enfant innocent, raisonnable et fou, parfait. Il est visible et présent, il est ici et maintenant. C'est ma chance. Le vent qui souffle dans mon dos, c'est ma chance. J'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance. Je sens le vent qui souffle dans mon dos. Qu'importe quand ça finira, ça existe là ici. Ça existe là ici. Déjà. Je sais les grillages et les murs, les immenses blessures, je les ai vus parler. Je sais qu'il y aura des hivers, qu'il y aura un désert, qu'on ne peut pas l'éviter. Mais c'est mieux d'être heureux et triste que tout ce qui existe entre les deux. Ne pas fermer le livre, ne pas oublier de vivre. C'est ma chance. Dans mon dos, c'est ma chance. J'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance. Je sens le vent qui souffle dans mon dos. Qu'importe quand ça finira, ça existe là ici. Ça existe là ici. Déjà. C'est ma chance. Je sens le vent qui souffle dans mon dos. C'est ma chance. J'attends ce moment depuis le berceau. C'est ma chance. Je sens le vent qui souffle dans mon dos. Qu'importe quand ça finira, ça existe là, ici. aussi déjà. Oh, 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 déjà.
Déjà. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau d'Abby Bernadotte. C'est ma chance. Je pense qu'Abby Bernadotte est dans l'instant présent, lui, pour le coup, parce qu'il nous dit ça existe là, ici, et il faut s'en rendre compte. Et on parle de sophrologie, on parle des 30 ans de la sophrologie, on parle aussi d'INM avec Anne-Marie qui est naturopathe réflexologue. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant dans l'émission, on a Patrick Fioretta qui est directeur de l'école Sophrolore, Laurent Vatrin, président de l'association des sophrologues Caïcédien de Lorraine, et Florence Vial, que vous connaissez bien sur RCN, qui anime des Bobagiques magiques et qui est sophrologue. Tout à l'heure, Laurent nous a parlé d'un terme, il nous a dit il faut parfois débrancher le mental. Laurent, est-ce que le vide mental, c'est la conscience sans la pensée?
Est-ce que le vide mental, c'est la conscience sans la pensée? Alors, c'est vrai que Patrick parlait tout à l'heure des phénoménologues allemands, et en particulier Edmund Husserl, hein, qui a inspiré vraiment, d'ailleurs c'est dans la définition de la sophro, hein, la phénoménologie existentielle inspire la sophrologie en tant que méthode. Et effectivement, dans la pensée, ou en tout cas l'articulation de pensée telle que Husserl l'a proposée, il y a plusieurs niveaux de réduction pour aller à la conscience de la conscience. En fait, il parle de l'eidétique. Eidos, en grec, c'est l'essence pure. Alors, l'essence pure, c'est qu'est-ce que je vais trouver au fond de ma propre conscience. Donc, une fois que je me suis libéré, effectivement, de tous les conditionnements, les acquis, le mental qui... le petit vélo, là, dans la tête, le hamster qui court...
Qui nous empêche de dormir, parfois.
Ouais, voilà, qui empêche, ce que disait Florence tout à l'heure, ça empêche de dormir, et ça me réveille la nuit, et ça m'arrive aussi, hein, ça arrive à tout le monde. En ce moment, ça peut arriver à tout le monde. Bon, mais... quand je prends conscience de ça, ah, ben voilà, ça y est, je peux aller. J'ai une méthode qui me permet d'arrêter le mental. Alors, arrêter le mental, ça ne veut pas dire le négliger en tant que tel, mais ça veut dire le laisser à sa juste place. Et encore une fois, la sophrologie s'occupe d'abord de nos perceptions corporelles qui nous disent des choses. C'est ce que disait Florence très bien tout à l'heure. Mon corps m'envoie des signaux qui sont souvent juste, hein, ce que disait déjà Épicure en son temps, 3e siècle avant Jésus-Christ, même si on a dépassé ce mouvement de la perception, mais voilà, donc le mental, débrancher le mental, ça passe aussi par une méthode qui dit le corps est présent, et il se joue quelque chose d'intéressant là, au présent.
C'est finalement ne pas devenir esclave de ses pensées négatives.
C'est ça.
Reprendre un peu le dessus sur ce qu'on pense, et puis aussi avoir conscience de l'instant présent.
C'est pas forcément que des pensées négatives d'ailleurs, ça peut être des délires très positifs. Il y a des gens qui sont dans une imagination parfois un peu trop débordante et qui imaginent des trucs qui sont absolument pas dans le réel. Donc il faut aussi, il y a un équilibre à trouver. La pensée qui surabonde, qui nous empêche effectivement d'être présent là dans la relation. Enfin, je vais prendre une image très simple. Si je rencontre quelqu'un dans la rue et que je lui dis « Alors, ça va ?» Mais avec toute ma charge mentale, que moi, ça va pas et que je pense à un truc, je le regarde et je vais plaquer sur lui tout ce qui va pas chez moi, je peux pas l'écouter, le gars que je rencontre là, dans la rue. Alors là, sophro, à un moment, on nous dit « Respire, écoute, regarde, t'es dans le présent, y a une relation qui est sympa, profites-en là, juste là maintenant, ici et maintenant. » Là, on arrête le mental et on est dans une relation.
Et on parlait hors antenne du lien entre volonté et imagination, un lien que Coué faisait, que Émile Coué faisait.
Émile Coué, oui, on peut retrouver ça sur le site des Amis de Coué. Coué disait tout simplement, si je tends une ficelle là sur le sol et que je vous demande de marcher dessus sur les 4 mètres, vous allez me dire oui c'est possible et je vais le faire. Et puis si après je vous dis je vais tendre cette corde entre les deux immeubles là, on est... les deux immeubles en face, en l'air, et ben vous allez me dire, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que votre imagination est plus forte que votre volonté à cet instant-là. Et donc, l'histoire de l'action positive qu'on retrouve chez Caicedo, c'est ça. C'est-à-dire s'imaginer un futur favorable, un futur avec du bien-être. À partir de ce moment-là, ce sera toujours plus fort que la volonté qu'on a de faire telle ou telle chose. Et là, on rentre dans une dimension qui est intéressante, c'est la question de savoir comment on veut être et pas du tout ce qu'on veut faire. Parce que bien souvent, le matin, quand on se lève, on se dit, on organise la journée. L'avenir, c'est un peu une conquête, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire ce matin, je dois aller à la radio, je dois faire ceci, je dois faire cela, je fais ma liste. Et la sophro, ça va pas être ça. Ça, on va s'en décharger en l'écrivant peut-être sur une petite liste, mais ça va être comment je veux me sentir aujourd'hui, comment je veux me percevoir, quelle est mon intention dans mon existence, puisqu'on parlait d'existentialisme tout à l'heure, enfin de phénoménologie existentielle, ça va être ça, quel est mon projet.
Et cette conscience là, cette volonté de se sentir bien, de saisir l'instant présent, ça aussi c'est une notion qui te parle, Florence?
Ah oui, ça me parle, parce que pour une partie de ce que je fais dans mon activité professionnelle, hein, moi je suis médecin, ce que Patrick explique là justement, c'est des choses qu'on peut travailler avec des patients. Par exemple, moi, je vois bien des gens qu'on prépare par exemple à des interventions chirurgicales, hein, qui viennent plutôt avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à certains moments. Les préparer avec de la sophrologie, alors on ne les prépare pas forcément avec beaucoup de pratique. Hein, on ne leur demande pas de faire ça. En général, on les voit deux fois pour les préparer. Et en fait, ce n'est pas leur dire « bon, bah, comment on va faire ?» Non, c'est comment vous allez vouloir être dans tout le parcours qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire comment vous voulez être la veille de votre intervention, le jour même. C'est les rendre vraiment présents, qu'ils connaissent bien leur parcours, savoir comment ils veulent être après, parce qu'on leur fait visionner aussi comment ils voudraient se sentir le lendemain, comment ils voudraient envisager de façon positive leur retour à la maison. Voilà, c'est une autre façon d'être présent aux choses. Et ça, ça les porte énormément. Et puis, il y a cette notion d'alliance entre deux personnes, c'est-à-dire qu'ils se sentent soutenus aussi, et ils savent aussi qu'ils ont du travail à faire. Parce que ça, il va falloir qu'ils le refassent tout le long. Donc, ils sont partie prenante. Donc ça, le être, c'est très important. On ne leur demande pas de faire des choses, parce qu'en général, à l'hôpital, on leur demande... Ils sont assez passifs, ils attendent. Là, on part dans une autre dimension. Là, c'est on vous propose quelque chose, on fera un entraînement ensemble, mais comment vous voulez être au moment de cette intervention? Et ça, on peut le faire pour plein de choses. Moi, je parle du domaine que je connais le mieux, mais ça pourrait être un sportif pour une compétition, de la même façon. Comment vous voulez être? Et puis après, c'est aussi du vécu de vie de tous les jours.
Anne-Marie, je te laisse réagir sur ces propos et aussi sur l'importance, on a l'impression de plus en plus croissante de ce genre de méthode. Aujourd'hui, surtout avec l'actualité qu'on a, on évoquait son caractère anxiogène. En quoi ces pratiques sont importantes aujourd'hui plus que jamais?
Alors, je suis d'accord aussi avec ce que Florence vient d'évoquer. Être présent aux choses, oui, c'est primordial. Et puis, c'est aussi gagner en confiance en soi et aussi dans les autres et dans la vie. Et ce panorama anxiogène qui nous entoure ne nous donne pas cette confiance-là, ne nous met pas en confiance. Et donc, on a peur de tout. Et notre mental, il est sur son terrain de jeu, la peur, justement. Donc, il se manifeste par des anticipations, des scénarios, mais qui n'existent pas. Et moi, ce que j'essaie de faire prendre conscience à mes clients, c'est de ne pas aller au-delà de son imagination, de rester vraiment dans le présent, de se faire confiance et de faire confiance aussi, de se dire que de toute façon, on a beau anticiper tout ce qu'on veut, la vie ne sera jamais telle qu'on l'a anticipée avec toutes nos peurs et nos doutes, et qu'on aura de toute façon toujours la solution. On est des êtres incroyables, uniques, on est une usine de transformation magnifique, on est capable de choses que l'on ignore. Alors, il faut voilà retrouver cette confiance que l'on a perdue, qu'on n'a jamais eue ou qu'on n'a pas eue parce que voilà on n'a pas les outils. Et justement, hein, des gens comme Patrick, Laurent, Florence, ben voilà, la sophrologie, oui, c'est aussi une méthode qui redonne de la confiance, qui l'étoffe, qui voilà, c'est quelque chose qui va venir nous conforter un petit peu dans ce monde complètement fou, mais en même temps tellement beau.
Patrick, on va revenir sur Sophrolore. Est-ce qu'il y a des innovations pédagogiques qui sont introduites pour maintenir la pertinence de la sophrologie dans un contexte d'évolution constante au final ?
Alors, c'est pas tellement au niveau de l'école, puisque depuis, comme l'a dit Laurent, depuis longtemps, nous avons une sorte de pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on commence par la pratique pour étayer la théorie. Et donc, c'est chaque personne peut venir à sa mesure prendre conscience de la méthode, qu'il soit philosophe ou alors maître nageur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se former comme sophrologue, qui n'ont pas forcément le même parcours, ni universitaire, ni professionnel, et qui pourtant deviendront sophrologues. Ça, c'est acquis. Par contre, dans l'application, dans le centre, parce que Sophrolore, il y a deux éléments, il y a deux entités. Il y a l'école, bien sûr, pour former des sophrologues, mais il y a aussi le centre d'application. Et nous travaillons de plus en plus en nous adaptant aux besoins de la population lorraine, particulièrement avec les seniors. Et nous répondons aux appels à projets de la conférence des financeurs et nous mettons en place des ateliers. Et les derniers qu'on a adaptés, puisqu'on parle d'évolution, c'est des ateliers aidants-aidés. C'est-à-dire que c'est des ateliers que nous pratiquons avec l'OHS de Meurthe-et-Moselle, où il y a deux sophrologues qui interviennent, un pour l'aidant, un pour l'aidé, et où l'aidé partage avec son aidant une pratique où c'est pas la maladie le sujet. Le sujet, c'est son humanité qu'il peut partager avec son être affectueux, parce que bien souvent l'aidant, c'est quoi ? Ce qu'il mobilise, c'est l'amour qu'il a pour son conjoint, c'est quelque chose d'affectif, un peu d'irrationnel, où on peut même aller jusqu'à l'épuisement pour pouvoir accompagner son aidé, et remettre un peu toutes les dimensions humaines de l'autre en jeu, c'est une des pistes que l'on est en train de développer.
Est-ce que donc on est là, je le rappelle, hein, pour parler aussi des 30 ans de la sophrologie en Lorraine, donc c'est demain, hein, demain au 57 bis rue de Nabécor, oui, à Nancy, hein, à partir de 8h30, avec un repas inclus, très important.
Il y a plus de repas là, parce que fallu qu'on donne le nombre pour le traiteur, donc là maintenant il y a plus de repas.
Si vous venez, c'est trop tard.
Voilà, c'est trop tard pour le repas. Par contre, la journée vous êtes ouverte et toutes les activités vous êtes ouvertes, mais pour les repas on peut plus. Hein, désolé. Okay.
Alors à quoi il faut s'attendre pour cet événement là?
Il faut s'attendre à avoir la participation en direct de Barcelone de Natalia Caicedo, qui est la fille du créateur de la méthode, qui va nous parler de l'histoire justement de la sophrologie, de hier à nos jours, voilà, et puis de hier à aujourd'hui, pardon. Et puis ensuite, il y a Julia Bockel, qui est une philosophe, qui a écrit notamment dans ses philosophies, et qui va nous parler de la conscience, d'un point de vue philosophique, on l'a un petit peu abordé aujourd'hui. Le professeur Paye qui va nous parler des interventions non médicamenteuses et plus particulièrement des thérapies complémentaires, puisque c'est le vice-président du GEDCOP, le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires et pratiques innovantes. Il va nous dire en quoi ces techniques complémentaires sont intéressantes pour la médecine dans le cadre d'une médecine intégrative. Le docteur Vial, ici présent,
de son prénom
Florence, viendra nous parler un petit peu de l'intérêt et de tout ce qu'elle a mis en place au CHU de Nancy pour les professionnels, les soignants du CHU, hein, qui est, faut quand même ne pas oublier que c'est quand même un secteur qui est assez tendu, qui est assez en tension et qui crée ces mêmes tensions chez le personnel. Régine Crouet qui interviendra, elle est entrepreneur, elle était directrice d'une entreprise de logistique et qui va nous parler de l'intérêt de la pratique de la sophrologie pour l'innovation et la dynamisation dans les entreprises. Et en fin d'après-midi, normalement, Claudine Guida viendra nous ouvrir le débat sur algorithme et conscience. Est-ce que c'est compatible ?
Ça, c'est une très très bonne question. Donc, pour nos auditeurs, hein, voilà, vous êtes invité demain au 57 bis rue du Nabécor à Nancy pour voilà, avoir des éléments de réponse sur cette question.
Je tiens aussi à dire qu'il y a toujours ces 15 ateliers l'après-midi, des ateliers exclusivement pratiques. Avec 15 sophrologues, moi j'ai été surpris de l'enthousiasme qu'ils ont eu à venir quand je les ai contactés pour partager leurs connaissances dans les applications diverses qu'ils font de la sophrologie.
Et comment on devient sophrologue? Comment on entre à Sophrolore?
Eh bien, il faut. Il y a quand même un protocole, il y a un entretien avec moi pour savoir si le projet est compatible avec les études sollicitées. Et ça dure 15 modules de 2 jours sur, on va dire, 15 mois avec les vacances, on va dire, hein, une bonne année, quoi. Mmh. Et puis, à l'issue de ça, normalement, on s'est guidé une séance et puis on s'est pris soi-même comme élève, puisque la pédagogie, c'est ça, c'est de se prendre soi-même comme premier domaine d'expérience.
Alors, quels conseils vous pouvez donner chacune à nos auditeurs pour qu'ils soient mieux ancrés dans la conscience, dans l'instant présent, Laurent?
C'est pas facile comme question. Non, mais pour le premier conseil, c'est conseil, je sais pas si c'est le bon mot, mais je parlais de porte ouverte tout à l'heure. Déjà, Patrick vient de dire, si demain vous êtes du côté de Nancy et que vous voulez essayer, c'est le moment. Voilà, c'est un premier conseil, un conseil très pratique pour le week-end. Ensuite, il y a beaucoup de sophrologues dans la région. Ils ne sont pas tous caïcédiens. On ne va pas parler des concurrents, ils font ça parfois très bien, il n'y a pas de souci. Mais les sophrologues caïcédiens, nous, on y tient, donc, parce que la méthode, elle est, encore une fois, très bien faite, elle est sécurisante. Il y a la question de l'alliance dont parlait Florence, il y a la question du travail, l'engagement qu'on demande aux sophronisants. Et surtout, le sophrologue, il a ce qu'on appelle sa réalité objective. Donc, il sait qu'il a des limites aussi lui-même. Donc, le premier conseil qu'on peut donner aux auditeurs et aux auditrices qui s'intéresseraient à ce qu'on vient de se dire, c'est que essayez d'aller toquer à la bonne porte. Voilà. Et si vous êtes en confiance, vous aurez une méthode de sophrologie qui pourra éventuellement s'adapter à votre besoin. Et c'est vrai que l'accompagnement, il est important. On ne va pas faire de la sophro comme ça, sur un claquement de doigts. Il y a une formation qui est très bien faite par Sophrolore chez nous, à Nancy, dans la région, parce que justement, il y a du temps long. C'est ce que vient de dire Patrick. Donc, prendre le temps, c'est aussi un conseil que je peux donner. Prendre le temps et faire confiance aux bonnes personnes. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres formations de sophrologie qui, de mon point de vue, ce n'est pas une critique, mais je pense, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment inscrites dans le temps pour donner suffisamment de structure et de capacité à accompagner des gens.
Florence, quel conseil ou alors qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vient vous voir et qui se sent mal et qui a envie de profiter de cet instant présent?
Qu'est-ce que je dirais? De profiter de l'instant présent, l'idée, c'est de lui dire, on va dire, ce que je leur répète le plus, c'est pratiquer. Parce que souvent, quand on a des personnes qui viennent, ils ont extrêmement foi. Souvent, ils viennent et ils nous disent, vous êtes la dernière personne que je viens voir. Parce qu'en plus, nous, on en voit beaucoup pour douleur. Donc, ils viennent vers nous vraiment comme si c'était la dernière roue de la brouette.
Ça met une certaine pression.
oui, alors on l'enlève tout de suite parce qu'en fait, c'est pas nous qui allons travailler. C'est lui qui va travailler. Et là, c'est différent. Alors, il y en a qui vont engager derrière. Il y en a d'autres, non. Parce qu'en fait, vous savez, c'est comme toujours, on aimerait bien que les choses aillent vite et surtout qu'on n'ait rien à faire. Et ça ne va pas être ça. Ça va être, on s'entraîne. Et on s'entraîne, et on s'entraîne, et on va s'entraîner. Et il faut être proactif à partir de ce moment-là. Parce que le verre plein, si vous avez une tendance à le voir vide, déjà dans la vie de tous les jours, pour le voir plein, il va falloir travailler, obligatoirement. On vous donne un outil, qui est un outil extraordinaire, mais il faut le travailler. Donc, oui, on va y arriver. Parce que quelqu'un qui va se lancer, qui va vraiment travailler, il va y arriver, même si c'est 5 minutes. Il n'y a pas de temps particulier. Une certaine pratique, elles peuvent être réduites à un petit quart d'heure, à 10 minutes. C'est des choses qu'on peut faire. C'est des habitudes de vie. Donc, c'est apprivoiser la technique. Prenez-la, travaillez-la, et vous allez évoluer.
Avec du temps.
Avec du temps, obligatoirement. Certaines personnes vont l'apprivoiser très vite. D'autres, ça va nécessiter un peu plus d'entraînement. Même nous, on a vu en se formant qu'il nous fallait un petit peu de temps. C'était pas si simple, donc voilà. Mais soyez tenaces. On sait que ça marche, on sait que ça va bien fonctionner. Vous allez, non seulement pour le problème donné, mais vous allez ouvrir tout le panel. Vous allez revoir vos valeurs, c'est très important. Vous allez un petit peu, comme la grotte de Platon, on va sortir de la grotte. Et on ne sort pas d'une grotte en une minute. On va y aller progressivement. On va apprendre à plus juger. On va apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont. On va avoir vraiment une autre conscience de vie. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission. Anne-Marie, quel conseil vous donnez à nos auditeurs pour qu'ils se sentent bien ?
Eh bien, de pratiquer justement auprès de professionnels tels que on vient d'entendre. Voilà, la sophrologie, il y a aussi d'autres techniques. Il faut que on se sente à l'aise aussi avec tout ce qui est mis à disposition, mais effectivement pratiquer, puisque nous thérapeutes avons cette qualité de présence et d'écoute. Il y a un espace qui est vraiment, c'est un lieu d'échange. Et voilà, donc oui, pratiquez, essayez, et puis constatez et faites confiance.
Et je laisse le mot de la fin à Patrick Fioretta.
Eh bien moi je dirais tout simplement, la question que je pose à chaque personne, c'est combien de temps vous prenez pour vous-même par jour. C'est déjà mettre dans la petite tablette qu'on ouvre le matin sur ce qu'on va faire, mettre des temps morts rien que pour soi. Et la deuxième chose, c'est repérer quand est-ce que nous vivons nos valeurs. C'est-à-dire que si la famille, pour moi, est une valeur, eh bien, essayer de repérer les moments intenses de bien-être que ça me procure et de les reproduire. Si la valeur du travail est importante pour moi, quand j'ai fini quelque chose et que j'en ai la satisfaction, eh bien, essayer de repérer ces moments où je vis quelque chose de positif de manière à les reproduire et à les projeter à l'avenir.
Très bien, merci beaucoup Patrick Fioretta. Je rappelle que vous êtes directeur de Sophrolor et qu'il y a votre événement demain, les 30 ans de la sophrologie en Lorraine, donc 57 bis rue de Nabécor à Nancy à partir de 8h30. Le repas n'est pas inclus si vous inscrivez seulement maintenant. Laurent Vatrin, président de l'association des sophrologues caïssédiens de Lorraine, merci. Merci à Florence, notre sophrologue de RCN. Merci à Pierre à la technique aujourd'hui et merci Anne-Marie. On a eu aucun souci téléphonique et ça s'est très bien passé. Merci aussi à nos auditeurs et on va se quitter avec un morceau de Labyrinth qui lui parle de ses sentiments, de ses émotions dans The Feels. Au revoir.
I got hit by a truck, I got hit by a truck, and it drove off and left me here for dead. Alone lying here crying in the rain. Yeah. I got touched by God and it fucked me up like an electrical current crossing through my veins. Lightning came and hit me again.
Intoxicated with your drug, bloodstream racing, heartbeat pulsing. The truth of it is, I'm in love with you. Oh, I got touched by God, and it fucked me up like an electrical current pulsing through my veins. Lightning come and hit me again.
clouds somewhere.